Au Seigneur. Restons toujours dans cette précieuse présence du Seigneur. Il nous a déjà fait du bien et il veut continuer de le faire. Il a tant de choses à nous dire, le Maître. Son cœur est débordant d'amour pour nous tous. Et il a une parole, j'en suis persuadé, pour chacun. Peut-être pour les uns, un mot peut résoudre ton problème. Un mot peut te consoler. Un mot de la part de Dieu vaut mieux que 10 000 paroles humaines. Un mot. Un mot, et ça peut être la délivrance, le salut, la consolation, la guérison. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Chers amis, nous vivons des temps particuliers, nous vivons les temps où Jésus revient bientôt.
Amen.
N'est-ce pas vrai?
Amen.
Tant de choses se passent sous nos yeux. Surtout ces deux dernières années, les événements prophétiques se bousculent. Le Seigneur est à la porte. Si le Seigneur est à la porte, nous devons nous préparer pour son prochain retour. Amen. Car le ciel est un lieu préparé pour ceux qui se sont préparés sur la terre. Le Seigneur viendra chercher un peuple préparé qui l'attend pour son retour.
Amen.
S'il est l'époux, et que nous sommes l'épouse. L'Apocalypse nous dit que l'épouse s'est préparée pour aller à la rencontre de l'époux. Nous devons nous préparer. Et j'aimerais vous apporter un court message. Comment se préparer pour le retour du Seigneur? Et vous donner 5 attitudes que tout chrétien doit avoir dans l'attente du retour du Seigneur. 5 attitudes que la parole de Dieu nous révèle pour pouvoir l'attendre d'une manière qui le glorifie et qui fera que nous serons debout lorsqu'il viendra sur les nuées du ciel. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Ainsi, nous allons voir quelles sont ces 5 attitudes qui nous aideront à nous préparer pour le retour du Seigneur. La première attitude, nous la trouvons dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 3. Première attitude du chrétien en vue de son retour. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, de moi, de chacun d'entre nous? 1 Jean 3:3. Nous allons lire à partir du verset 1er, 1 Jean 3, verset 1er. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et voici le verset 3 qui est important. Quiconque a cette espérance, de quoi? Donc de son retour, n'est-ce pas? Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà donc la première attitude du chrétien en vue du retour du Seigneur. Il se purifie. Il se purifie chaque jour. C'est la première attitude. Il se purifie chaque jour pour être prêt le grand jour, le dernier jour. Et c'est chaque jour que nous devons nous purifier. Nous ne devons pas attendre le dernier jour parce que nous ne le connaissons pas. Il viendra comme un voleur. Nous ne savons pas quand il reviendra. C'est pourquoi lorsqu'il reviendra, nous devons être prêts. Et pour être prêt, il faut être prêt maintenant. C'est celui qui est prêt maintenant qui sera prêt pour le grand jour. Amen. Si tu n'es pas prêt maintenant, tu es en danger. Si tu remets toujours à plus tard, tu es en danger. S'il revenait lorsque tu n'es pas prêt. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Dans ces temps de la fin, nous devons avoir la révélation que notre Dieu est un Dieu de pureté et de sainteté. Amen. Certains appuient sur l'amour de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour. Mais nous ne devons jamais oublier que cet amour de Dieu n'est pas un amour qui couvre le péché, qui cache le péché. Entendre certaines personnes, nous avons l'impression que quand ils disent « Oh, mais Dieu est amour, Dieu m'aime », comme pour dire, oh, même si je vis dans le péché, même si je fais des choses qui ne sont pas bien, Dieu est amour, voyez-vous? Comme pour dire, puisqu'il est amour, eh bien, il me pardonnera. Il couvre le péché. Alors, ils se permettent de vivre dans le péché, de faire des choses qui déshonorent Dieu au nom de l'amour de Dieu. Mais dites-moi, mes amis, quelqu'un qui parle comme cela n'a pas compris l'amour de Dieu. La véritable compréhension de l'amour de Dieu ne nous fait pas vivre dans le péché, mais nous éloigne du péché. Amen. L'Épître aux Romains ne nous dit-elle pas, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Voyez-vous, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Quand nous savons combien il nous a aimés, combien il a payé cher pour nous délivrer de nos péchés, pour nous purifier et nous rendre agréables à Dieu le Père. Quand nous réalisons combien le prix a été grand à cause de notre péché, de ton péché, de mon péché, alors nous n'avons qu'une attitude, c'est de dire « Seigneur, tu m'as aimé à ce point-là pour me sauver de mon péché ». Afin que je vive désormais pour toi et que je vive dans la lumière et dans la pureté. Amen. L'amour de Dieu nous conduit à réaliser que Dieu est un Dieu saint. Et c'est pourquoi dans ces temps de la fin, le chrétien doit réaliser d'autant plus la sainteté de Dieu et marcher dans la lumière. Car Dieu est aussi un Dieu de lumière. L'apôtre Jean ne dit-il pas Dieu est lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Si nous marchons dans la lumière comme il est, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus continue de nous purifier de chaque péché. C'est lorsque le chrétien marche dans la lumière qu'il est continuellement purifié de son péché. Amen. C'est pourquoi il est important d'apprendre à marcher chaque jour dans la lumière. Dieu n'attend pas la perfection car nul n'est parfait, n'est-ce pas vrai? Amen. Nul n'est parfait. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous marchions dans la lumière. Ça, nous pouvons le faire. Amen. Amen. Personne ne doit dire, oh, mais moi, on n'est pas parfait, alors moi, je continue comme ça. Non, non, non. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais on doit marcher dans la lumière. Oui. Amen. Amen. On doit aimer la lumière. Dieu est un Dieu de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous avons quitté les ténèbres. Nous aimons la lumière. Nous n'aimons plus vivre dans les ténèbres. C'est pourquoi dès que nous faisons quelque chose de mal, en pensée, en parole ou en action, instantanément, nous devons venir à la lumière. Nous devrions avoir ce sentiment constant, « Oh Seigneur, purifie-moi de cette mauvaise pensée, purifie mes lèvres de ces mauvaises paroles, purifie-moi de cette mauvaise action, je hais le mal, je hais le péché, comme tu le hais, ne l'oubliez pas, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Si nous sommes en communion avec Dieu qui est pur, ne pensez-vous pas qu'il désirera que nous vivions dans la pureté? C'est le signe que quelqu'un marche en communion avec Dieu, qu'il désire vivre dans la pureté. N'est-ce pas vrai? Que quelqu'un dise qu'il marche avec Dieu et qu'il ne veut pas marcher dans la pureté, cette personne-là ne marche pas en communion avec Dieu. Il se fait des illusions. La véritable communion avec Dieu, qui est un Dieu pur, nous conduit à aimer la pureté. Amen. Car cette communion du Dieu de lumière imprime en nous ces désirs de vivre dans la lumière. Alléluia. Et c'est un très bon signe de santé spirituelle quand le chrétien aime marcher dans la lumière. Il ne peut pas rester dans la souillure. Dès qu'il a le sentiment d'avoir mal agi, instantanément, il demande pardon. Purifie-moi, Seigneur. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Oh, pardon, purifie. Et il ne reste pas. Il aime la lumière. Mais il y en a d'autres, ils font n'importe quoi. Ils sont là, et puis tout va très bien. Alléluia, gloire à Dieu. Allez, ils louent le Seigneur, gloire à Dieu. Et puis, ils font n'importe quoi, ils mentent. Ils volent, ou je ne sais pas, ils commettent adultère même. Et puis après, ils viennent devant Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, on a l'impression qu'ils ne sont jamais repris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Car s'il y a une communion authentique avec Dieu, le Saint-Esprit, qui est un Esprit Saint, nous montrera que ça ne va pas comme ça. Et qu'il faut tout de suite aller au pied de la croix, confesser son péché pour en être purifié. Amen. Non seulement le confesser, mais haïr son péché. Confesser et haïr son péché pour vivre une vie nouvelle. Amen. Mes amis, le Seigneur revient. Quelle doit être ton attitude? Mon attitude journalière. Je dois me purifier chaque jour. Amen. Et si un chrétien marche dans la lumière, il n'aura qu'un désir, c'est de se laisser purifier par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous ne pouvons plus vivre dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Et nous sommes malheureux lorsque nous avons fait quelque chose, n'est-ce pas vrai? Nous sommes malheureux, c'est un bon signe. Quand un chrétien pêche et qu'il n'est pas malheureux, il faut se demander s'il est chrétien. Un authentique chrétien lorsqu'il pêche. Et attention, et lorsqu'il pêche, quand le chrétien pêche, il ne pêche pas volontairement. Le péché pour un chrétien est un accident et non pas une habitude. Lorsque nous étions païens, nous péchions par habitude, n'est-ce pas vrai? Mais une fois que nous sommes devenus chrétiens, nous ne péchons plus par habitude. Si un chrétien pêche par habitude, c'est qu'il a besoin de se reconvertir, celui-là. Il a besoin de se reconvertir. Si le chrétien pêche, c'est par accident. C'est involontairement, par accident. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est pas ce que je voulais. Je hais cela. Je n'en veux pas. Purifie-moi. Je ne peux rester avec cela dans mon cœur. Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. C'est qu'il y a une authentique communion avec Dieu. Mais le chrétien qui dit qu'il est en communion avec Dieu et qui est dans le péché, il n'est pas en communion avec Dieu. Il se fait des illusions. Amen. Il se purifie chaque jour. Est-ce là ce que tu fais? Est-ce là ce que tu fais? Ou est-ce que tu t'endurcis dans le péché? C'est très grave. Mais que chaque jour, nous soyons sensibles à un tel point que continuellement, à la moindre chose qui déplaît à Dieu, « Oh, purifie, lave-moi, lave mes lèvres !» Et c'est ainsi que nous marcherons de lumière en lumière, de pureté en pureté. Amen. Il se purifie chaque jour. Voilà la première attitude. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Voilà la bonne attitude. Une deuxième attitude, 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Les passages que je vous donne sont toujours en rapport avec l'avènement du Seigneur, avec le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Et vous verrez que chaque fois, il y a une pensée nouvelle et précise qui est donnée en ce qui concerne le retour du Seigneur. Alors tout à l'heure, c'était la purification. Et maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui nous donne une exhortation bien précise, 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soulignez cette expression, saignez les reins de votre entendement. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez-vous le retour du Seigneur ici. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ceindre ses reins, les reins de son entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va y revenir. Juste allons un tout petit peu plus loin encore. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et cette pensée revient de celle de tout à l'heure. Mais arrêtons-nous quelques instants. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La pensée ici, c'est l'attitude que le chrétien voit, c'est il est absolument décidé à obéir. Voilà la pensée, l'attitude que Dieu demande du chrétien. Il est absolument décidé à obéir. Soulignez bien décidé, parce qu'il est bien dit ici, comme des enfants obéissants. Cette pensée qui est absolument décidée à obéir provient justement « saigner les reins de votre entendement ». On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire là, saigner les reins de votre entendement. C'est une image un peu, pour nous, difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Eh bien, pour les premiers chrétiens, ce n'était pas compliqué. Du temps des Juifs, vous savez que les Juifs avaient des grandes robes, n'est-ce pas? Ils avaient des grandes robes. Et alors, quand ils devaient courir ou faire un travail précis, eh bien, s'ils devaient courir et faire un travail où ils devaient aller un peu vite, avec leur longue robe, jamais ils n'auraient pu courir. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez une longue robe comme ça et que vous essayez de courir, vous allez tomber. Vous allez tomber. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient cette robe et qu'ils voulaient courir? Eh bien, ils se saignaient la robe. Ils attachaient la robe avec une ceinture, si bien que la robe étant attachée, ils étaient libres de leur mouvement. N'est-ce pas? Étant libres de leur mouvement, ils pouvaient courir, aller par-ci, par-là. Et alors l'apôtre veut dire maintenant, saignez les reins de votre entendement. Maintenant que vous êtes chrétien, vous ne devez plus aller laisser comme ça vagabonder vos pensées comme avant. Il est dit ici, les reins de votre entendement. Voyez-vous, donc c'est un problème de pensée ici. C'est dans nos raisonnements qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un cœur nouveau, mais une vieille tête. Je répète, beaucoup de chrétiens ont un cœur nouveau, un cœur neuf, mais une vieille tête. Pourquoi je dis cela? Une vieille tête parce qu'ils raisonnent comme avant. Ils n'ont pas été renouvelés dans leur entendement. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Romains 12, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et en somme, c'est la même pensée que Pierre donne ici. « Saignez les reins de votre entendement. » Autrement dit, ne laissez pas comme la robe, vous savez qu'elle est là, qui se balade partout. Ne laissez pas vos pensées se balader un peu de partout comme cela. Il faut maintenant vous discipliner et vous décider à obéir au Seigneur. Non pas vous laisser aller comme ça par vos sentiments. « Oh, aujourd'hui j'ai envie de prier, je prie. Aujourd'hui je n'ai pas envie, je ne prie pas. Aujourd'hui j'ai envie de louer, c'est bien. Oh, il y a une bonne ambiance ici, on est bien. Je loue. Oh, le lendemain, on n'a plus envie de louer. Oh, on ne fait plus rien du tout. Un jour on a envie, on fait quelque chose. Le lendemain on n'a plus envie, on ne fait plus rien. Est-ce que c'est normal ça? Ça ne va pas du tout. C'est que les reins de notre entendement ne sont pas bien serrés. C'est que nous nous laissons aller, il faut serrer quelque chose, il faut se décider dans nos pensées à glorifier Dieu et à obéir à Dieu. Amen. Et quand Dieu me demande de prier, je ne dois pas prier quand j'en ai envie, je le fais parce que Dieu me le demande. Amen. Quand on loue le Seigneur, on ne doit pas attendre des bons sentiments pour le louer. Dieu nous le demande dans sa parole et nous le faisons. Amen. Et quand nous obéissons, qu'on en ait envie ou pas, c'est là que la bénédiction de Dieu vient. C'est là que beaucoup de chrétiens perdent de nombreuses bénédictions. Ils n'agissent que par les sentiments, voyez-vous. C'est les sentiments qui les dirigent. Mais leur tête, c'est une vieille tête. C'est une vieille tête. La tête n'obéit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris de décision. Ils n'ont pas dit maintenant, il faut que je saigne un peu les reins de mon entendement. Il ne faut pas que je me laisse aller un peu comme ça. Quand ça va bien, alléluia. Et ils ont des bons sentiments, ils vous aiment. Le lendemain, ils ont des sentiments au contraire. Ils vous envoient promener. C'est pourquoi vous avez certains chrétiens qui un jour vous embrassent, presque à vous étouffer. Et le lendemain, quand vous les voyez, poum! Un jour, ils vous lavent les pieds, ils sont remplis d'amour. Le lendemain, ils vous lavent la tête. Ils vous lessivent la tête. Pourquoi? Pourquoi une telle attitude? Voyez-vous, tout est sentimental, vous êtes d'accord avec moi? Tout est sentimental, c'est ça les sentiments. On ne peut pas se fixer sur les sentiments. Comme je le dis souvent, si on vit de sentiments, le sentiment souvent. Le sentiment souvent. On ne peut pas vivre de sentiments. Amen. Il y en a qui sentent qu'ils sont malades, mais ils ne sont pas malades du tout. Puis il y en a qui sentent qu'ils ne sont pas malades. Mais ils sont malades, ils vont presque mourir. Les sentiments nous trompent souvent. Parfois, ça peut nous aider, d'accord. Mais on ne doit pas se fier là-dessus, vous êtes d'accord avec moi? On ne doit pas se... Et c'est ce que Pierre veut dire. Il leur dit, Jésus revient. Maintenant, il ne faut plus vous laisser aller comme ça, être trop vous laisser aller par les circonstances ou les sentiments. Ah, aujourd'hui, tout le monde est contre moi, c'est fini. Dieu m'a abandonné, voilà. Alors, c'est fini. Dieu, soi-disant, parce que les hommes sont contre toi, est-ce que Dieu t'a abandonné? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, dans ta petite tête, ça ne va pas. C'est dans ta petite tête que tu dois attacher un peu tout ce qui va de travers, là. Tu vas tomber si tu continues comme ça. Ce n'est pas parce que les hommes sont contre toi que Dieu est contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un jour, un jeune homme est venu me voir, il m'a dit, mais dans la Bible, c'est écrit que si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? J'ai dit, mais... Et puis, il ne s'en sortait pas. J'ai dit, mais là, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça que c'est écrit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Peu importe les hommes, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils font. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si le Seigneur se tient avec nous, si nous restons près du Seigneur, alors nous resterons debout. Mais nous ne devons pas être influencés ni par les circonstances, ni par les sentiments personnels. Saignez les reins de votre entendement. Cessez de vivre comme cela. Un jour ça va bien, un jour ça va mal. On se sent bien, alléluia, on se sent mal, il n'y a plus rien du tout, on fait la dépression. On fait une dépression. Saigne les reins de ton entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit d'abord au début, il est absolument décidé à obéir au Seigneur. Amen. C'est ça. Saindre les reins, c'est maintenant, je décide de glorifier Dieu. Je décide de ne plus me laisser diriger par les sentiments. Ta parole est la vérité. Je décide d'être dirigé par ta parole. Amen. Par ta parole. Alléluia. Peu importe ce que les hommes disent ou font, peu importe ce que je ressens, ta parole est la vérité. Je me laisserai diriger par ta vérité. Alléluia. Il est absolument décidé, mais vous devez prendre des décisions pour ça. Et malheureusement, il y en a qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Je répète, il y en a qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Alors ils tournent en rond. Ah oui, c'est bien ce que vous avez dit. Oh, c'est formidable. Oui, la parole de Dieu, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut prendre des décisions. Amen. Et c'est quand vous prenez des décisions de changer que vous commencerez à changer. Mais dire c'est merveilleux, dire c'est bien, oh, on a passé des bons moments, ça ne suffit pas. Tu dois ceindre les reins de ton entendement. Ça veut dire que tu dois prendre des décisions. Tu dois faire agir ta volonté, à toi le vouloir et à Dieu le pouvoir. Mais toi, si tu ne fais pas agir ton vouloir, Dieu ne pourra pas faire son pouvoir. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas un robot. Oh, moi, j'attends tout de Dieu. Tu peux attendre longtemps. Tu peux attendre longtemps. Dieu attend ta collaboration. Dieu attend la soumission de ta volonté. Alléluia. Saint les reins de ton entendement. Toutes les pensées que tu as ne viennent pas de Dieu. Il y en a qui pensent que toutes les pensées qui viennent, ça vient de Dieu. Et puis il y en a qui pensent aussi que toutes les visions qu'ils ont viennent de Dieu. Il y a beaucoup de visions comme au sein de révision. Comme les vieilles voitures. Je répète, beaucoup de visions qui ont besoin de révision. Vous avez compris? Il y en a qui viennent vous raconter des visions, se demandent si ça vient du ciel ou d'en bas ou de je ne sais où. C'est tellement la confusion totale qu'on se demande ce que c'est que ça. Il y a des visions qui ont besoin de révision. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas la parole de Dieu dedans. Les gens sont dans la confusion parce qu'ils ne méditent pas la parole. Comment peux-tu être renouvelé dans tes pensées par la parole? Tu dois te nourrir de la parole. Tu dois remplir tes pensées de la parole. C'est alors que tu commenceras à penser comme Dieu veut que tu penses. Mais que de chrétiens pensent exactement comme les païens? Ils ont les mêmes attitudes et les mêmes réactions parce que la parole de Dieu fait défaut. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Ne laisse pas ta robe comme ça se balader et essayer de courir. Tu vas tomber et beaucoup sont tombés déjà. Saint les reins de ton entendement, prends des décisions. Seigneur, c'est ta parole qui me dirigera. Amen. Ta parole, ta vérité, et non pas les circonstances, les sentiments, ou qui que ce soit, ta parole est la vérité. Sanctifie-moi par la vérité. Alléluia. Es-tu décidé à obéir? Voilà, c'est la deuxième attitude. C'est la deuxième attitude en vue, on l'a bien lu, qui vous sera apportée, afin que vous ayez une entière espérance dans la grâce de Dieu qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que nous ayons une entière espérance, voyez-vous? Que nous ne soyons pas déçus, que tout soit vraiment en ordre avec Dieu. Alléluia! Dieu n'attend pas la perfection, je le dis, mais il attend un cœur entier pour lui, dans tout ce que nous faisons. Amen! Un cœur entier. Voilà la volonté de Dieu. Troisième attitude maintenant. Nous trouvons cette attitude dans la vie de Paul. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. L'apôtre Paul aussi avait une belle attitude concernant le retour du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Nous voyons cela dans ses épîtres. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Voici ce qu'il dit. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, écoutez bien maintenant, qu'est-ce qu'il est dit, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, voyez-vous? À ceux qui ont aimé son avènement. La couronne de justice est réservée non seulement à Paul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une pensée profonde ici, qui sera la troisième attitude en vue du retour du Seigneur. Le chrétien, il est ardent dans son amour pour le Seigneur. Je répète, troisième attitude, il est ardent dans son amour pour le Seigneur. La couronne de justice est réservée à qui? À ceux qui auront aimé son avènement. Voyez-vous, nous voyons là le cœur de Paul. Le retour du Seigneur pour lui était quelque chose d'extraordinaire. Il a aimé son avènement. Pour lui, la chose la plus importante, c'était d'être auprès du Seigneur. Amen. N'a-t-il pas dit bien souvent, « Christ est ma vie et la mort m'est un bien. » Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Beaucoup de chrétiens disent, Christ est ma vie, mais la mort pour eux est une perte. Une perte, une catastrophe. Parce qu'ils n'aiment pas l'avènement de Jésus. Mais Paul, c'était différent. Et il disait aux autres, c'est à Philippe, je crois, aux Philippiens. Il leur dit, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai envie de partir et d'être auprès du Seigneur. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Alléluia. Voyez-vous, c'est un mensonge, souffrance. J'ai envie de partir, mais il a dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais à cause de vous, Eh bien, je resterai, parce que je sais que vous avez besoin de l'enseignement de Dieu. Et je veux vous aider, et afin que ce que Dieu a commencé en vous, il l'achève. Mais si j'avais un choix à faire, dit Paul, eh bien, moi, je partirais. Moi, je veux aller là-haut, parce que je l'ai vu une fois. Je suis monté jusqu'au troisième ciel. J'ai vu la gloire de Dieu là-bas. Et je vous assure, il n'y a plus rien ici qui m'intéresse. Quand quelqu'un a vu la gloire de Dieu, les gloires humaines disparaissent totalement. Alléluia. Les gloires humaines disparaissent totalement et deviennent comme de la boue. Devant la gloire de Dieu, la gloire de notre Sauveur. Et Paul était dans cet état-là. Il aimait ardemment le Seigneur. Il avait un amour ardent pour lui. Alléluia. Et voilà comment nous devons attendre le Seigneur, en ayant pour lui cet amour ardent. Amen. Que lui ait en tout la première place. La première place avant notre service pour le Seigneur, avant tout ce que nous faisons, notre amour pour lui doit venir en premier. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent pour le Seigneur, mais qui ne travaillent pas avec le Seigneur. Et là, c'est un grand danger. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, ce sont les Marthe. Marthe, quand le Seigneur est venu à la maison, elle travaillait bien pour le Seigneur. C'était pour qui qu'elle faisait à manger? C'était pour le Seigneur. Mais elle le faisait en rouspétant. Vous êtes d'accord? Elle le faisait en rouspétant, en s'inquiétant. Il dit au Seigneur, mais Seigneur, mais tu vois pas, il y a Marie là, regarde-moi ça, j'ai plein de boulot, plein de travail, et tu ne t'inquiètes-tu pas de ce que... Elle fait rien du tout. Voyez, elle travaillait pour le Seigneur, mais pas avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Tu t'inquiètes, c'était pas le travail qui était mal, mais c'était son inquiétude dans le travail. Amen. C'était son inquiétude. Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que nous soyons des Marie et des Marthe. Il faut les deux en nous. Mais Marie doit passer en tête. Parce que Marie symbolise se tenir à ses pieds, c'est l'adoration. Marthe, c'est le service. Mais il faut les deux. Il y en a qui disent, moi je suis une Marie. Et les autres disent, moi je suis une Marthe. Non, non, ça ne va pas. C'est un déséquilibre ça. Si tu es une Marie trop longtemps, c'est pas bon. Ton adoration va se transformer en mysticisme. S'il n'y a pas de vie pratique dans, dans ton adoration, tu vas devenir une mystique. Une adoration sans engagement fait de nous des mystiques. Et un travail sans adoration fait de nous des légalistes, des inquiets. Mais l'adoration qui nous conduit dans le service, ça c'est le christianisme. Amen. Le vrai christianisme, c'est le mariage de l'adoration. Avec le service, mais l'adoration vient avant. Et c'est ce qu'était Paul. Et il désirait partir avec son maître. L'adoration, l'amour pour le Seigneur passait en premier. Amen. Et c'est pourquoi tout ce qu'il faisait était fait comme était le fruit d'un débordement d'amour pour le Seigneur. Voilà le service dans quel esprit doit être fait. Je travaille pour mes frères et mes sœurs comme quelque chose qui déborde de mon cœur pour le Seigneur. C'est un débordement d'amour pour le Seigneur qui tombe sur les autres. Et quand nous travaillons comme cela, le service ne devient plus difficile. C'est une véritable joie. Amen. Alléluia. Ainsi, il a aimé son avènement. C'est-à-dire qu'il y avait cet amour ardent pour le Seigneur. Tu travailles peut-être pour le Seigneur. Mais tu as peut-être mis de côté le Seigneur et tu travailles pour le Seigneur. Le Seigneur veut que tu travailles avec lui. Amen. Et tu verras, Jésus a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail fait dans l'adoration, c'est un travail qui ne disparaîtra jamais. Amen. Dieu met le sceau de l'éternité. Amen. Sur le travail de quelqu'un qui est un adorateur. Amen. Le sceau de l'éternité est sur celui qui travaille en adorant le Seigneur. Tandis que tout travail sans adoration, ça disparaît. C'est un fruit qui ne demeure pas et on est déçu, n'est-ce pas vrai? Et combien de chrétiens sont déçus, frustrés? Travail, 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 mais il n'y a rien qui demeure. On espère que ça marche, mais il n'y a rien qui marche. Ou ça marche un peu, et puis après 15 jours après, il n'y a plus rien du tout. Et on se fatigue. Nos fruits disparaissent, il n'y a pas de fruits qui demeurent. Parce qu'il n'y a pas l'adoration. C'est quand il y a l'esprit d'adoration dans notre travail, avant notre travail, que nous aurons des fruits qui demeurent éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. Il était ardent pour son amour pour le Seigneur. Il a aimé son avènement. Aimes-tu son avènement? Il a aimé son avènement parce qu'il a aimé le Seigneur. Amen. Il n'a pas seulement aimé l'avènement du Seigneur, mais il a aimé le Seigneur de l'avènement. Alléluia. Le Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire que tu l'aimes ardemment? Alors là, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Quatrième attitude, Jacques. Maintenant, c'est Jacques. Vous voyez où je vous ai donné, c'est un peu des différents apôtres qui nous parlent là. Chacun nous donne une attitude différente. Jacques, cette fois, qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques 5, versets 7 et 8. Toujours en rapport avec le retour du Seigneur. Voici ce qu'il dit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Voyez-vous, ça revient deux fois. Soyez patients. Patients. Voilà. Nous, on est toujours pressés. Hein? Soyez patients. Voilà. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Affermissez, ça veut dire que ça prend du temps. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Il y a quelque chose à nous dire ici. Vous avez entendu parler de la... De quoi? De la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alors, quelle est ici l'attitude? On l'a vu, c'est net, c'est clair. La quatrième attitude, le chrétien doit être patient dans l'épreuve. Comme le laboureur est patient, il attend le précieux fruit de la terre. Ça ne pousse pas du jour au lendemain, vous êtes d'accord avec moi? Si vous allez toujours enlever la semence pour voir si ça pousse, est-ce que ça va pousser? Il y a des chrétiens qui sèment, le lendemain ils arrachent la semence pour voir si elle a poussé. Ils enlèvent la semence, ah, elle n'a pas encore poussé, ça là-bas. Le lendemain ils retournent, ils prennent la semence, non, ça n'a encore pas poussé. Vous croyez que ça va pousser comme ça? Ça ne poussera jamais. Il est patient. Nous vivons un siècle où nous sommes les chrétiens aussi un peu presse-boutons. Les païens sont des presse-boutons et puis les chrétiens aussi. Quand Dieu n'exauce pas notre prière, dans les 5 minutes ou instantanément, tout de suite, « Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, tu ne m'aimes plus. Oh Seigneur, ta parole, je ne sais pas si c'est la vérité. Oh Seigneur. » Voilà. Dès qu'il n'y a pas une réponse, tout de suite, on perd patience. On doute de l'amour de Dieu. C'est une grave erreur. Dieu nous dit, « Soyez patients. Tout n'ira pas comme vous le pensez, mais soyez patients. Dieu ne se trompe pas. Dieu est bon. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et combien Dieu l'a béni après? Par quelle souffrance Job n'est-il pas passé, n'est-ce pas? Par quelle souffrance? C'est avec ces consolateurs de Job là, hein, ces 4 amis entre guillemets, on les appelle les consolateurs, mais c'était des drôles de consolateurs. Il l'enfonçait encore plus. Il en a vu toutes les couleurs, le pauvre Job. Et il a patienté, il a patienté. Mais Dieu après, qu'est-ce qu'il est dit ici? Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Regardons la fin des choses, mes amis. Nous nous regardons au début des choses. Quand Dieu agit, Dieu regarde la fin d'une chose. La parole de Dieu dit, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Ne sois pas découragé. Ne sois pas dans la confusion parce que les choses ne vont pas comme tu veux. Jette ta semence. Fais confiance à Dieu. Il agira en son temps et comme il le voudra. Tu n'as pas à donner d'ordre à Dieu.
Il y en a maintenant qui commencent à donner des ordres à Dieu. Dieu est devenu leur boy, leur serviteur. Et c'est eux les maîtres. Seigneur, si tu fais pas ça, tu peux être sûr que c'est fini maintenant pour moi. J'allais dans ton église, mais maintenant j'irai même plus. Et puis à la collecte, j'en mettrai de moins en moins. Et puis alors, au bout d'un certain temps, je vais mettre des boutons même, je mettrai. Si tu continues. Ils vont à l'église pensant qu'ils rendent service à Dieu. Il y en a, vous savez, il y en a qui vont à l'église dans cet esprit-là. Comme pour dire, Seigneur, tu vois, je fais quelque chose d'extraordinaire, je viens ici, j'aurais pu être ailleurs. Mais je viens ici, parce que je viens là, tu devrais me bénir. Comme s'il rendait service à Dieu. Mes amis, tu ne rends pas service à Dieu. Tu ne fais pas de grâce à Dieu, c'est Dieu qui te fait des cadeaux. Amen. Dieu ne te doit rien, c'est nous qui lui devons tout. Amen. Nous lui devons tout. Il est le maître et tu es le serviteur. Pourquoi certains sont dans la confusion? Parce qu'ils sont là constamment en train de donner des ordres à Dieu et quand les choses ne vont pas comme ils veulent, ils abandonnent même la foi, certains. Ou alors il y en a d'autres qui commencent une dépression qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et quand vous grattez un petit peu, eh ben c'est parce que les choses ne sont pas faites comme ils le voulaient et pensaient. Regardez-moi ça. Mais qui est le maître? Qui est le Seigneur? Sois patient. Sois patient, sois patient, prie. Fais confiance au Seigneur. Reste dans la louange et dans la foi. Sois conscient, sois patient. Dieu agit. Il a entendu ta prière, persévère. Mais il agira comme il voudra, quand il voudra. Laisse-le faire. Il est Dieu et il ne se trompe jamais. Amen. Alléluia. Toi, tu te trompes, moi je me trompe. Mais Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qu'il fait est parfait. Faisons-lui confiance. Si nous savons attendre l'heure de Dieu, nous verrons de merveilleuses choses se passer. Amen. Mais parce que nous sommes trop pressés, nous gâchons tout. Parce que nous voulons prendre les choses dans nos mains, nous gâchons tout, nous détruisons tout. Nous empêchons Dieu d'agir comme il le voudrait. Il a un plan. Laissez-le faire. Restez dans la confiance et dans la louange et dans l'adoration. Amen. Alléluia. Soyez patients, soyez patients. Attachez-vous au Seigneur et à sa parole. Qu'il n'y ait pas de doute en vous sur son amour. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Job, il aurait pu dire beaucoup de choses. Il aurait pu se poser tout un tas de choses quand tout le monde se dressait contre lui, même sa femme un jour. Même sa femme. Il lui a dit, mais allez, arrête, arrête, ça suffit maintenant. Maudit Dieu est mort. Vous vous rendez compte? Un drôle de conseil, ça. Mais il a tenu ferme. Alléluia! Tenons ferme et attachons-nous au Seigneur de tout notre cœur. Soyons patients. Amen. Mes amis, écoutez-moi bien. Nous, nous sommes toujours pressés et nous arrivons toujours en retard. Dieu n'est jamais pressé et il n'arrive jamais en retard. Amen. Jamais pressé, mais il n'arrive jamais en retard. Il sera présent au rendez-vous. Tu verras ce qu'il a préparé pour toi, fais-lui confiance. Mais remets toute ta vie et les rênes de ta vie entre ses mains. Amen. Amen. Cinquième attitude. C'est Tite qui nous donne cette cinquième attitude. Tite 2. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Une dernière belle pensée. Tite 2, 11 à 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, voyez-vous là, quoi ? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Alors regardez ici au verset 13, il est dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le grand Dieu ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, quelle est la cinquième attitude ici? La bienheureuse espérance. Donc, il est rempli d'espérance. À cause de la gloire de son Sauveur, qui va bientôt se manifester. Amen. Voilà une cinquième attitude. Le monde n'a plus d'espérance, vous êtes d'accord avec moi? Mais le chrétien, lui, a une espérance bienheureuse. Quand il est dit ici une espérance bienheureuse, ça veut dire que le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est à venir. Tite veut dire ici, on a rejeté Jésus, on l'a méprisé, on l'a humilié, on n'a pas su qui il était. Mais toi, chrétien, il faut que tu saches une chose, c'est que celui qui a été rejeté ici-bas, c'est le Dieu qui a été glorifié là-haut. Il a été honoré. Nous le voyons comme couronné de gloire et d'honneur. Il est honoré et glorifié là-haut. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas baisser la tête. Il est rempli d'une espérance glorieuse à cause de la gloire de notre Seigneur que nous allons bientôt voir. Alléluia! Ne nous attardons pas aux choses de la terre. Nous allons bientôt tout laisser. Et un jour, nous verrons sa face et nous verrons la gloire de notre Seigneur. La gloire extraordinaire. Et Tite nous dit, eh bien, nous avons une bienheureuse espérance. Ne pleurons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Alléluia. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes comme que des pèlerins. Alléluia. Là, cette vie est comme un pont. C'est comme un pont. La vie sur la terre, c'est comme un pont qui nous fait passer d'un lieu à un autre. Est-ce qu'on habite sur un pont? Est-ce que si quelqu'un construit une maison sur un pont, est-ce que ça se fait ça? Non, on ne construit pas de maison sur un pont. Eh bien, la vie sur la terre, c'est un pont. C'est un lieu qui nous conduit à la gloire céleste. N'y attachons pas nos cœurs. Amen. Amen. On peut jouir des choses, mais sans être attaché à cela. Amen. Et c'est ce que Tite veut dire. En attendant la glorieuse manifestation de la gloire de Dieu, vous allez le voir un jour tel qu'il est. Alléluia. Le meilleur est à venir. Un jour, vous serez avec lui. Les choses de la terre pâliront. Ne vous attachez pas à cela. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Vivez comme des pèlerins. Notre cité à nous est dans le ciel. Alléluia. La gloire de Dieu attend les enfants de Dieu. Là-haut, il essuiera les larmes de tes yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de mort. Il n'y aura plus rien. La félicité éternelle, la gloire éternelle. Nous pouvons supporter 70 ans ou 80 années de souffrance quand nous comparons l'éternité de gloire que nous allons vivre avec le Seigneur. Amen. À côté de l'éternité, qu'est-ce 80 années de souffrance? Qu'est-ce que c'est? C'est un clin d'œil. Vous faites ça, c'est 80, 100 ans même ceux qui vivent plus longtemps. 100 ans, bon, mais ça fait un petit peu plus. Un petit peu plus, 100 ans, voilà. Mais par rapport à l'éternité, c'est quoi? C'est rien du tout. Amen. C'est ce que l'apôtre veut nous dire. Jésus revient. Il va essuyer tes larmes. Il y a des larmes qui ne seront pas séchées sur cette terre. Mais laissez-moi vous dire une chose, et je termine maintenant, parce que ça pourrait aller longtemps. Ça vaut la peine de pleurer ici-bas sur la terre, quand on aura le privilège d'avoir Jésus qui viendra essuyer nos larmes. Alléluia. Rien que ça, d'avoir Jésus venir, essuyer nos larmes, il essuiera les larmes de nos yeux. Ça vaut la peine de pleurer. Amen. Il te serrera dans ses bras, il te dira, mon enfant, ne pleure plus, c'est fini. Ne pleure plus, c'est terminé. La souffrance est passée. La mort a passé. Les ténèbres ont passé. Les douleurs ont passé. La maladie ont passé. C'est terminé. Entre dans la joie de ton maître. Il est rempli d'une glorieuse espérance. Mes amis, si les chrétiens pensaient beaucoup plus au ciel, eh bien, ils se lamenteraient beaucoup moins sur la terre. Pourquoi tu te lamentes? Et un rayon de la gloire céleste, une vision de la gloire céleste. Et cette gloire essuiera toutes les larmes et te consolera. Amen. Il est rempli d'espérance. Quand toutes ces choses arriveront, qu'a dit Jésus, levez vos têtes. Car votre délivrance approche. Mes amis, levons nos têtes. Il revient bientôt. Et nous le verrons avec sa gloire, avec la gloire de Dieu. Celui qui a été humilié, c'est celui qui a été glorifié par Dieu. Il viendra avec la gloire et ses anges. Oh, alléluia! Quel beau jour ce sera quand nous le verrons éternellement. Mes amis, c'est pourquoi persévérons, que rien ne nous arrête. Au contraire, soyons zélés pour en amener d'autres au Seigneur. Amen. zélés pour de bonnes œuvres. Non pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais des bonnes œuvres parce qu'on est sauvés. Par grâce. Alléluia. Et attirant d'autres âmes au Seigneur pour que nous soyons le plus possible à jeter des couronnes au pied de l'agneau qui en est digne. À lui soit la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles. Il revient bientôt avec la gloire de son Père et de ses saints anges. Persévère, enfant de Dieu, que rien ne t'arrête. Les gloires de la terre pâliront un jour devant la gloire éternelle du Fils, de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia! Il revient bientôt. Sois fidèle jusqu'à la mort et il te donnera la couronne de la vie. Amen. Amen.